transmission. Musique and lore. Avec Rémo Tatin. Musique Nol n'est pas seulement une émission de radio, c'est aussi une association qui organise des manifestations, concerts, one-man shows, théâtres, pour vous faire découvrir des artistes de la région, mais aussi de toute la France et de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir notre parrain, qui est Simon Fage, depuis la création de l'association. Bienvenue dans votre émission.
Chers auditeurs, votre mission, si vous l'acceptez de l'entreprendre, sera d'écouter cette émission et de vous divertir. Si vous veniez à être pris en train de nous écouter, nous serions dans l'obligation de vous remercier chaudement. Cette bande ne s'autodétruira pas dans les 30 secondes.
Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important.
On va commencer.
C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans.
Les auditeurs, on est toujours au Festival d'Avignon 2024, sous un beau soleil, et je suis en présence de Charlotte Boisselier. Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très bien.
Très bien ?
Chaudement. Chaudement, très bien. Le moral est bon.
Ouais ? Des belles salles ?
Des belles salles, ouais.
Des belles salles. Alors, il faut dire qu'on est presque à la moitié du festival. Alors, je dis bien presque, parce qu'on n'y est pas encore. On n'est pas encore au 14 juillet.
Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est le 14 de la moitié.
Eh oui.
Bah, après, il reste une semaine, quoi.
Ouais, il reste une semaine, quoi.
Ouais.
Ton spectacle, c'est singulière.
C'est singulière, exactement. Singulière.
Alors, qu'est-ce que tu nous expliques là-dedans ? Et puis, c'est quoi ? C'est des personnages ? C'est...
Alors, il y a un peu de personnages, un peu de stand-up. Dans les personnages, j'ai une mamie très moderne, une bourgeoise complètement folle. Au milieu, il y a moi, qui suis bien entamée aussi. Sur un fond de « fais ce que tu veux dans la vie, t'occupe pas trop des autres et tu passeras des bien meilleurs moments ».
Ah, j'aime bien ça, c'est ouais. Une belle philosophie ça.
Ouais, en tout cas, je trouve que ça fait gagner du temps de bonheur et c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis, j'ai un petit passage sur les toilettes publiques aussi parce que je trouve ça marrant, puis que ça concerne tout le monde a priori.
Tu trouves marrant les toilettes publiques qui sont souvent dégueulasses, toi ?
Bah, c'est pour ça que c'est marrant. Faut voir le spectacle.
Faut voir le spectacle.
Et après, c'est marrant.
D'accord.
Avant, non.
Tu l'as écrit tout seul ?
Je l'ai écrit avec Thomas Angelvi pendant le Covid. Et après, Élodie Pou a rajouté sa patte là où il y en avait besoin. Donc, on est trois auteurs dessus.
Élodie, maintenant, qui te produit ?
Élodie qui me coproduit et qui fait la mise en scène. Elle est partout.
Elle est partout. Là, elle ne s'arrête plus.
Elle s'arrête plus.
Elle s'arrête plus. Et en plus, elle est maman. Alors là, ça déborde.
Voilà. Elle joue.
Ah oui, c'est vrai, elle joue. Elle joue, elle joue dans les pièces et elle joue son one.
Elle joue dans les pièces, elle joue son one, elle va faire.
Parle dans la sucette, parce que sinon je t'entends.
Ah, pardon. Elle joue dans les pièces, elle joue son one, elle va faire scène de ménage, elle va commencer une tournée de Zénith. Elle assure.
Oh, c'est une bête.
C'est bête.
C'est une bête. Alors moi, j'ai connu il y a très longtemps, elle n'était pas connue. Le problème, c'est que comme elle ne reconnaît plus personne.
Oui, bah, c'est ça. Mais on est très nombreux à avoir le même souci. Moi, j'ai du mal à reconnaître aussi les gens.
Ouais, moi, ça m'arrive aussi. Mais on voit tellement de monde aussi.
Ben, c'est ça.
C'est ça le problème.
C'est-à-dire que les gens, en moyenne, ils sont 50 à nous voir juste nous, seuls sur scène. Et nous, on ne les voit pas, quoi.
Et puis, donc, ils sont dans le noir.
Puis, ils sont dans le noir. Donc, c'est plus compliqué de se souvenir d'eux. On ne voit rien.
On voit des ombres.
On voit des ombres. Et encore.
Quand on voit les ombres. Bon, on n'est pas là pour raconter des conneries, enfin si, mais sur ton spectacle.
Et ben, en plus d'approfondir...
Tu nous dis que tu parles des toilettes, tu nous dis que tu fais des personnages, tu as une mamie, mais c'est quoi le fil conducteur ?
Ah bah, le fil conducteur, c'est fais ce que tu veux, si ça t'amuse, fais-le, si t'as envie de le faire, fais-le, si ça te fait kiffer, fais-le, et t'occupe pas des autres en fait.
Donc
ne
en
retiens
fait,
pas, sois qui t'as envie d'être.
Le fil conducteur, c'est ta philosophie en fait.
Exactement.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Jure incessante, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Le fil conducteur, c'est ma philosophie.
C'est beau.
C'est ne t'occupe pas de mettre des gens dans des cases, on s'en fout. Ne t'occupe pas de mettre des étiquettes aux gens. Les étiquettes, ça gratte et c'est tout. Voilà.
J'aime bien ça.
Ouais, pas mal. Hein.
J'aime bien ça.
Ouais, pas mal.
Moi, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu mais comment tu es arrivé à faire de la scène. C'est-à-dire que toute petite, tu faisais quoi? Tu faisais du théâtre ou tu faisais quoi?
Non, je faisais du vélo, un peu de roller, du hockey, de la danse sur glace, du ski.
T'as fait du hockey?
Du snowboard, ouais.
En compète?
Ouais.
Wow, classe.
J'ai fait 6 ans de danse sur glace. Et puis un jour, j'ai vu les gars de hockey qui étaient à côté. Je fais, pire, envie d'essayer ça quand même. Et en fait, ça me correspondait bien mieux. Parce que la glace, c'est quand même pas ce qui me correspond le mieux. Mais bon, j'ai jamais fait de théâtre. J'ai toujours fait un peu la combe pour faire rire la galerie depuis que je suis toute petite, mais non, j'ai pas fait de théâtre, j'ai fait un peu de... Si, il y avait des ateliers de comédie musicale ou de chorale au collège, tu vois. Mais vraiment, la première fois que j'ai commencé à monter sur scène pour faire rire, c'était quand j'ai fait une formation d'animatrice en Bretagne. Donc j'ai fait beaucoup d'animation dans les villages vacances.
Ouais.
Une fois par semaine, tu fais des spectacles d'anime, tu sais.
Ouais, t'apprends ton métier en fait.
Comme dans les campings et tout ça. Et voilà, une fois par semaine, tu fais les spectacles d'anime. Tu reprends des sketchs des plus grands. Tu t'éclates. Et puis moi, je me suis rendu compte que je trouvais ça trop génial, que je me sentais trop bien sur scène. J'avais des bons retours. Du coup, ben, je suis montée à Paris. J'ai fait l'école du One Man Show. Parce que j'en avais un peu marre de dire les textes des autres. Donc j'ai décidé de me lancer en fait. Et puis voilà, après j'ai écrit mon premier spectacle. Et puis c'est parti quoi.
Alors justement... Tu fais l'école de One Man Show, est-ce que tu fais les scènes ouvertes aussi entre-temps ou tu les fais après?
J'en ai fait un petit peu quand j'étais à l'école du One Man Show parce que c'était à Paris et qu'il y en a beaucoup. J'en ai fait un petit peu et puis après j'ai fait pas mal. En fait moi je suis pas mal sur la tournée quoi. Donc je fais beaucoup de dates de tournée, même maintenant. Bah, maintenant je suis pas à Paris, je suis à côté d'Annecy donc les plateaux il n'y en a pas 50 milliards. Mais je fais des plateaux de temps en temps comme ça. Plus pour le plaisir et pour faire tourner un peu mon nom. Mais moi, ce que je kiffe faire, c'est vraiment jouer mon spectacle partout, quoi. Entier.
Oui, c'est le but.
Bah, c'est ça.
C'est le but. Et du coup, comment ça se passe? Il y a qui te repère? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, bah, voilà, c'est toi qui prends la place et qu'on te repère? Qui fait ça et c'était où?
En fait, j'ai fait beaucoup de tremplins d'humoristes. Donc c'est pendant les festivals, tu as souvent des petits concours de jeunes talents. On a chacun un passage à faire et puis tu as un jury de professionnels, tu as le public et tout le monde vote quoi. Donc tu as souvent le prix du public, le prix du jury et bah par chance, j'ai beaucoup gagné ces concours-là au début. Et en fait, quand tu gagnes le droit de faire la première partie d'une tête d'affiche l'année qui suit. Et donc j'ai gagné plusieurs fois la première partie d'Élodie. Puisque c'était son moment, donc elle était en tête d'affiche. Et donc, je l'ai rencontrée sur un tremplin. Et puis après, j'ai été amenée à faire sa première partie tout de suite.
Et elle a kiffé.
Et elle a kiffé. On s'est kiffé, en fait. On s'est kiffé, ça a matché tout de suite, et dans l'univers professionnel, et dans le privé. Et donc, voilà, depuis, on se suit.
Mais c'est une belle histoire.
Hein. Ouais, c'est super. Ouais, ouais. Donc maintenant, on est amis et on bosse ensemble, donc c'est trop
donc
bien.
Donc ça continue.
Ça continue, voilà.
Et par contre, maintenant, tu joues ton one complet.
Là, je joue mon one complet, ouais. Là, je joue principalement mon one complet. Je fais des petits plateaux pour promouvoir mes dates de tournée, évidemment. Mais voilà, c'est cool.
Et donc ton one, il dure combien de temps? Une heure et quart?
Mon one, il dure 1h30, 1h40 en tournée.
Ah ouais.
À Avignon, 1h, parce qu'on a des créneaux d'une heure. Oh donc ouais. Il a fallu tout couper, ouais. Il a fallu enlever 30 minutes, quoi.
Ça a dû être dur, quand même.
Ouais, c'est pas simple.
Ouais, faut...
C'est pas simple parce que tout ce qu'on dit, on aime le dire. Donc il faut sélectionner.
Oui, puis c'est rodé pour 1h30.
Puis c'est rodé, donc là, la première fois à Avignon, le cerveau, il était là, mais qu'est-ce que tu fais? Normalement, on dit pas ça, en fait. Donc c'était un peu dur, mais c'est un exercice, c'est intéressant, c'est cool, quoi, ça fait travailler la mémoire.
Alors toi, t'as qu'une heure, il y a des théâtres où ils ont 1h15, hein, donc à Avignon. Mm. Pas de bol.
Pas de bol.
Mauvaise pioche. Non, mais c'est un bel exercice, donc c'est bien aussi. Là, t'es dans quel théâtre?
Au Théâtre des Vents, c'est mieux que le Théâtre des Fours.
Ouais.
À 17h20, les jours impairs.
Pourquoi les jours impairs et pas faire le festival en entier?
Eh bien, c'est souvent, il y a des producteurs qui mettent plusieurs artistes sur le même créneau. Donc là, on est deux artistes. Il y en a un qui joue les jours pairs et l'autre qui joue les jours impairs. Pour un premier Avignon, c'est pas mal.
Est-ce que c'est pas trop dur justement de jouer que tous les deux jours? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu faire la première partie jusqu'à la moitié et puis l'autre qui fasse...
Ah
l'envers?
Oui.
Je ouais, sais pas, hein, je sais pas. Je pose une question, je ne sais pas.
Oui, je pense que ça aurait été illégal, tant le début était galère en termes de fréquentation du festival. Mais bon, après, c'est bien, c'est juste que c'est plus compliqué à vendre quand tu tractes, quoi, parce que...
Oui, je m'en vais demain.
Je joue après-demain, voilà, c'est un peu galère, mais bon. Après, si les gens veulent vraiment nous voir, ils s'organisent, quoi.
Oui, bien sûr, celui qui veut, il peut.
Voilà, c'est ça.
Et puis moi, je m'inquiète pas, l'année prochaine, tu vas jouer... Tu vas revenir.
Bien sûr, j'espère.
Donc tu vas remplir, il n'y aura pas de soucis.
Oui, ce serait bien.
Puis là, de toute façon, tu feras tout le mois.
On va tout casser.
Ben ouais.
On va tout casser.
C'est clair.
Même quand le ciel vire au gris, derrière il cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit. Fais un effort, découvre-le.
Si on te dit que la vie n'est pas belle, réponds-leur que c'est là tout l'enjeu. De voir dans les nuages.
Si on te dit que le monde est cruel, réponds-leur qu'on te le révèle mieux. On a tous un petit bout de soleil dans nos yeux. Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble, puisqu'on le peut, qu'on se ressemble. Impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Rien ne sera jamais comme avant. Demain est un nouveau présent qu'on redessine comme des enfants. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde. Que nos vies sont des châteaux de sable dont il faut savoir prendre soin. Non, ce ne sont pas que des fables.
Le bonheur c'est comme un boomerang. Quand on le partage, il nous revient. Si on ne parle pas tous la même langue, ça ne fait rien. C'est un point de vue, une question d'angle. De verre moitié vide ou moitié plein. On a toujours plus que ce qu'il nous semble dans nos mains.
Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble. Puisqu'on le peut, se ressemble, impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Rien ne sera jamais comme avant. Demain est un nouveau présent qu'on redessine comme des enfants. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde.
C'est que c'est la règle du jeu, mais on se relèvera toujours, on fera de notre mieux.
Et si la nuit remplace le jour, si tous nos rêves prennent feu,
ce qui nous sauvera, c'est l'amour.
Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble, puisqu'on le peut, qu'on se ressemble, impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde.
On s'est croisés plusieurs fois dans la rue l'année dernière,
ouais.
Cette année, mais je n'ai jamais vu ton spectacle en entier. Par contre, je t'ai vu à la télévision quand tu fais tes sketchs. Donc souvent, la chaîne ouverte, des choses comme ça qui passent à la télé.
Ouais.
Et moi, j'aime bien ton univers.
Ah bah, trop bien.
Ça me fait rire.
Merci.
Tu traites des sujets intéressant. Tu essaies, comme beaucoup, de faire changer les mentalités, en espérant que...
J'essaie de... En fait, moi, ma mentalité, c'est de ne pas perdre de temps à s'énerver sur des trucs sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, en fait. Donc, et surtout, ne pas perdre de temps à essayer de changer les gens. Chacun est comme il est, quoi. Oui, voilà,
en fait. Tu veux pas changer les gens, en fait.
Non, chacun est comme il est. Moi, je suis comme je suis. Si ça te convient pas, bah, on se fréquente pas et c'est pas grave, en fait.
Alors moi, je pense pas comme ça. Je pense qu'il faut accepter les gens comme ils sont. Mais quand tu tombes sur des abrutis homophobes, racistes, tout
Il
faut changer, faire changer les choses, quand même.
Oui, non, mais ça, c'est...
Alors, on changera pas forcément les gens, mais on peut changer leur mentalité.
On peut essayer, bah, c'est ce que j'essaye de faire,
oui.
En tout cas.
C'est pour ça que je disais que tu essayes de faire changer les choses.
Non, changer les choses, oui, changer les gens...
Compliqué.
Non.
Compliqué.
Changer leur façon de penser, oui, pourquoi pas. Mais pas changer ce qu'ils sont, quoi.
Non.
T'en as toujours qui... t'as les cheveux courts, toi t'es androgyne. Toi t'as les cheveux longs, t'es comme si...
J'ai pas de cheveux, moi je suis quoi ? Chauve ?
Ouais, voilà, non mais en fait c'est tout... En fait c'est tout des cases, tout le temps des cases.
C'est
ça
le problème.
Des cases, tu vois. C'est... Je sais rien... Toi, tu portes un cycliste, bah c'est sûr, tu fais de la course. Bah non, en fait, je suis juste bien dans mon cycliste, quoi. Enfin, tu vois. Toi, par exemple, moi, on me dit souvent, toi, tu mets un short et des chemises et des t-shirts, bah t'as envie d'être un homme. Bah non, c'est juste que je suis pas bien dans les robes. Et c'est tout. Enfin, c'est.
Après, il y a, on nous dit, faut arrêter de dire, c'était mieux avant. Le problème, c'est que c'était mieux avant. Même si il y avait beaucoup de problèmes, il y avait quand même plus de tolérance. Moi, j'ai connu les années 70-80, il y avait beaucoup plus de tolérance quand même, même s'il y avait des gros cons. Hein.
Oui, mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on est...
Dans des cases, comme tu dis.
Tout doit être mis dans une case. S'il n'y a pas de case, on crée une nouvelle case pour pouvoir dire « Ok, c'est bon,
bah, rien
je
ne
savais
sexualité.
Pas le mettre, c'est bon. Oh, » bah, la sexualité,
je comprends plus rien, moi. L'autre, je suis pan, je suis tric, je suis trac, je comprends rien.
La sexualité, c'est, pour moi, ça ne devrait même pas être un débat.
On ne devrait même pas
en parler. Oui, c'est ça. C'est tellement privé et personnel que pour moi, ça devrait même pas être un débat. Il se trouve que ça en est un. Bon, bah, on essaye de faire comprendre que ça devrait pas, mais tu vois, ça par exemple, c'est un combat qu'il faut mener, mais tu pourras pas avoir tout le monde, quoi.
Oui, mais alors le problème, c'est que ces gens qui défendent ça, c'est eux aussi qui mettent des cases. Parce qu'ils disent, moi je suis pan, je suis trique, je suis.
Mais oui.
Mais non, mais
c'est
on
ce que
s'en
je dis
fout.
Dans mon spectacle.
On s'en fout.
C'est ce que je dis dans mon spectacle, qui mettent des cases dans les cases et des lettres dans les lettres et des. En fait, au bout d'un moment, même ceux qui auraient pu à la base dire ok, ça me dérange pas que ça existe, vous faites ce que vous voulez, bah au bout d'un moment ils sont là, vas-y c'est trop en fait, vous prenez trop de
c'est
place.
C'est comme les écolos.
Ça, quoi. Ouais.
Les écolos, à trop vouloir faire d'écologie, ils foutent
mais
tout en l'air.
Non mais c'est le problème des extrêmes en fait, tout simplement. C'est tous les combats sont bons à mener, mais va pas trop loin quoi.
C'est clair, faut de la tolérance.
Les extrêmes c'est mauvais pour tous les niveaux quoi. Il n'y a aucun extrême qui est bon.
Ah, moi, là, j'aime trop l'extrême de manger, regarde.
Bah voilà.
Mais c'est pas un mauvais extrême quand même. Hein. Bah est-ce qu'on peut te suivre quelque part, à part dans la rue, évidemment, mais est-ce que tu as les réseaux sociaux où on peut te voir
Oui, je suis sûr.
On a des loups. On a des loups, les gars. Les loups. Les loups graous. Les loups graous. Oui, donc on disait. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur Insta, Facebook, Charlotte Boisselier.
Est-ce qu'il y a un site ?
Il y a un site, oui, le site de la production.
Et c'est ?
Oulala Production.
Oulala Production.
Oulala Production.
Et là, on retrouve toi et les autres artistes.
Là, on retrouve tous les artistes de la production et puis mes dates de tournée. Voilà.
Super.
On peut tout savoir.
Je vais quand même, je vais aller voir si tu passes chez moi.
C'est où chez toi ?
Dans le nord, à Lille.
À Lille, oh, bah, je veux bien y aller, j'y suis allé déjà.
T'es plus dans la sucette.
J'y suis allé l'année dernière, je crois.
Ouais, mais j'étais en tournée, je pouvais pas venir.
Ah bah oui. Hein.
Bah ouais, mais je suis désolé, moi je ne suis pas payé pour jouer, j'ai un métier.
Eh ben, je suis sûr que je vais y retourner l'année prochaine.
Et tu vas où, tu sais, Spotlight ?
Ouais, bah c'est le Spotlight que j'avais fait, après j'imagine que je vais retourner au même endroit parce que c'était cool.
D'accord.
Et que je les avais trouvés sympas, donc j'imagine... Attends, j'ai mal au cul.
Oui, en même temps, tu es assis sur une pierre.
Ah, j'ai la pierre imprimée dans le fion. J'ai la pierre imprimée dans le fion, je répète.
Oui. En même temps, ça se comprend. Moi, j'ai de la graisse, j'ai pas le problème.
Ah ouais. Moi, ça va.
Moi, c'est-à-dire qu'elle pénètre.
Ça fond, ça englobe.
Oh, c'est dégueulasse, putain. Oui, donc tu disais, tu vas jouer à Lille, tu vas jouer au Spotlight, t'as bien aimé l'endroit, donc tu risques d'y retourner.
Ouais, je pense. Ouais.
Mais si tu es que je suis dans le coin, je t'appelle.
Bah vas-y,
avec grand plaisir.
Top.
Super. On va pas dire pourquoi, mais... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non.
Non.
Non, ça va.
Non. Est-ce que tu as quelque chose à enlever?
Non.
Non. Ça va?
Non, j'assume.
Charlotte, moi je te remercie beaucoup.
Merci
parce que
à
je
toi.
T'aime beaucoup. Et puis ça m'a fait plaisir.
Merci. C'était cool pour moi aussi.
Merci à toi.
Bisous.
Allô le monde. Est-ce que tout va bien? Allô le monde. Je n'y comprends plus rien. Allô le monde. Prends soin de toi. Allô le monde. Ne te laisse pas aller comme ça. Comme ça. Quel est le nom du mal? On peut subir la fièvre. Les étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas. Semer pour qu'on récolte ou crier mon effroi.
Les auditeurs, on est toujours au Festival d'Avignon 2024, on est avenue de la République et on est en présence de monsieur Cyril Etesse.
Comment ça va bien?
Mais ça va bien et toi?
Bah écoute, parfait. Pour moi, c'est une fin de festival. Donc écoute, c'est parfait. J'étais là jusqu'au 15, donc on termine tout à l'heure.
Et comment ça s'est passé?
Écoute, très très bien, très très bien.
Bonne surprise?
Ouais, dans le cadre d'un festival un peu compliqué cette année, à cause des Jeux Olympiques, à cause du moral un peu bas au niveau des élections.
Du football, du vélo,
ouais, le football, enfin voilà. On a tout eu, on était à un horaire tard et pourtant les gens ont répondu présent. On a flyé autant que possible, on s'est vraiment démené. Je trouve qu'il y avait moins de monde que d'habitude,
oui.
Je pense que c'est un peu normal et logique. Et du coup, on s'en est, je trouve, bien sorti.
Alors moi j'aimerais bien que tu nous dises le titre de ton spectacle qui est tout nouveau.
Eh bien écoute, oui, c'est un nouveau spectacle en rodage, ça s'appelle Monolithe et ça se joue jusqu'au 15, donc ce soir, au Paradise République à 21h50. On a joué tous les jours.
Et le pitch c'est quoi alors?
Le pitch c'est un spectacle qui parle de l'évolution de la société actuelle en fait, hein, l'évolution de l'être humain d'une manière générale. Il y a beaucoup de choses comme j'aime faire, hein. il y a des choses un peu engagées, des choses absurdes, des choses plus légères, des imitations. C'est un panaché de plein de choses, voilà, avec mon énergie un peu folle et mon plaisir à retrouver le public à chaque fois, comme d'habitude quoi.
Alors est-ce que tu te dénonces ou est-ce que c'est les coups de gueule?
Oh, c'est un peu les deux, tu sais, le coup de gueule c'est toujours un peu de la dénonciation quelque part, donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc oui, il y a un peu de dénonciation, mais il y a des choses légères aussi, voilà, c'est vraiment pour tout le public.
Donc tout le monde rigole?
Tout le monde rigole, jusque là ça s'est bien passé.
Si vite, y a des fois où ça rate. Dire que les astigmates sont toutes un peu presbytes. Oui et non, peut-être pas faut le dire vite. Simplement, on constate. Voir les montures, pas forcément roulure, les faibles en mirette,
pas si vite,
pas toujours, mais souvent c'est très net, c'est la folle aventure.
Par la lunette, par la lunette.
J'ai remarqué quelque chose depuis le début du festival. Là.
Ouais.
T'as de plus en plus les lunettes sur le nez quand même.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux, on vieillit, hein. J'en parle d'ailleurs, hein. Le temps passe, c'est un spectacle aussi sur le temps qui passe, et donc du coup je parle, les lunettes c'est très drôle que tu m'en parles parce que ça fait partie des thématiques du spectacle.
Est-ce que tu as, comme dans l'autre spectacle, des déguisements ou tu restes toi-même
cette fois-ci ? Non, cette fois-ci c'est vraiment un spectacle un peu en mode stand-up, donc je suis micro à la main, ce que je ne faisais jamais avant. Donc c'est vraiment un discours, un dialogue avec le public, un échange. Il peut se passer plein de choses. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment du stand-up avec avec beaucoup moins de personnages qu'avant, mais avec voilà des petites phases où on crée des situations, voilà, et puis toujours des moments qui partent dans l'absurde avec des moments très longs qui montent dans les tours et qui où je m'énerve et puis avec une cassure, voilà, comme j'ai toujours aimé le faire. C'est un peu ma marque de fabrique avec les imitations, donc les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps seront pas trop dépaysés avec ce spectacle, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'habitude de me suivre et qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils avaient été très surpris par l'orientation de ce spectacle qui tranche un peu avec ce que je faisais jusque là. En tout cas, ça tranche avec le temps des bons.
On serait en train de faire de la musique, on dirait c'est l'album de la maturité.
Non, c'est pas non, je trouve que le spectacle de la maturité, c'était déjà mon précédent spectacle, Le Temps des Monstres. Là, c'est un spectacle qui, on va dire, c'est un spectacle un peu bilan. J'aime bien le mot parce que ça fait 20 ans que je fais de la scène. Donc, c'est un spectacle où c'est un peu basé sur le temps et sur l'évolution. Donc, je regarde un peu dans le rétroviseur et je peux donner mon avis sur l'humour, sur ce que devient l'humour aujourd'hui, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut plus dire, en m'amusant de ça. Je peux faire un peu des comparatifs avec ce qui se passait hier, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, voilà, je fais un peu un bilan sur notre métier d'humoriste. Et ça, j'espère, c'est assez drôle, quoi.
Bah, c'est pas espéré, tu l'entends bien dans les salles que c'est drôle.
Je l'entends dans les salles que ça se marre, ouais. Et pourtant c'est en rodage, donc je suis content des premiers retours, ouais.
Et tu as aussi joué Les Pieds Nus dans la Neige.
Et là je sors de scène tout à l'heure, on a joué Les Pieds Nus dans la Neige, le lundi on est au Festival d'Avignon, c'est la course parce que je fais deux spectacles à une heure d'intervalle, donc voilà. Ouais, je sors de scène.
Du spectacle de Cyril Etès et je peux dire que c'était une dinguerie. Cet homme a du talent. Allez le voir.
Oh, les gens sont gentils.
Allez le voir.
Les gens sont gentils.
Tu l'as payé combien ?
Écoute, je ne l'ai pas payé. Je ne connais pas cette personne. Non, voilà, ouais, j'ai enchaîné avec la pièce où la pièce tu l'as vue, donc je me donne à fond. J'imite Louis de Funès. Et là, voilà, je souffle un peu, je reprends l'énergie pour la redistribuer dans le One.
Bon, je teste un peu d'énergie parce que tu vas y retourner là.
J'y retourne dans pas longtemps. Là, je vais m'habiller puis on va y aller. Hein. C'est la dernière.
Ouais, n'y va pas tout nu.
Non, je n'ai pas de je mets un slip quand même.
J'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver, par exemple sur la prod Lionceau, qu'on en parle deux minutes quand même.
Écoute, alors la prod a changé de nom, là, elle s'appelle Zaipo maintenant, Zaipo Prod, c'est la même production, hein, c'est juste qu'on a changé de nom, ça lui convenait mieux au niveau de la com.
C'est-à-dire que le lion est devenu grand.
Voilà, le lion a grandi, exactement, le lion s'est émancipé, et on tourne un peu partout, là, autant avec Les Pieds Nus qu'avec Les Pieds Nus dans la Neige qu'avec Monolithe, on va faire vraiment une tournée où les deux spectacles vont cohabiter, donc j'aurai pas le temps de m'ennuyer, puis on va aller un peu partout. En France, en Suisse, en Belgique, voilà. Puis Avignon nous a ouvert pas mal de portes, on a eu pas mal de pros intéressés. Donc, et puis je pense que ça va continuer ce soir. Donc voilà, on a une belle tournée qui se prépare. Et puis on peut me retrouver toujours sur les réseaux, Instagram, Facebook, les réseaux habituels quand même, comme tout le monde.
Bah voilà. Donc merci à toi.
C'est moi qui te remercie, mon ami, de ta fidélité.
Et puis je te dis un gros merde.
Je prends.
C'est donné de bon cœur.
Allez, en avant.
Bisous.
À l'attaque.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons, les orchestrations ont eu raison de mes économies. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait se pendre à mon cou. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Oui, je me voyais déjà.
On est toujours au soleil avec la chaleur, tout ce qui va avec. On est en terrasse, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Et je suis avec le magicien et mentaliste Léon.
Bonjour, bonjour à tous.
Comment tu vas ?
Très très bien. Nickel. Ça va super bien, j'allais te poser la question à toi. Mais
on arrive à la dernière semaine d'Avignon, on est lundi,
c'est
ça finit dimanche.
Exactement.
T'en es où? Qu'est-ce tu... Quel bilan?
J'en suis où? On continue, on s'accroche pour essayer d'être aussi bon comme au premier jour. Voilà, même si la fatigue commence à se faire ressentir, mais ça les gens ne le voient pas.
C'est un marathon.
C'est ça, c'est un peu le marathon de l'année. Ça se passe très très bien parce que j'ai la chance depuis le quatrième jour d'être complet tous les jours. Et donc c'est trop bien, on continue, on ne s'arrête pas. Et puis si, ça s'arrêtera le dimanche du coup, mais voilà. Et le spectacle s'appelle Illusion ou Coïncidence. Parce que dans le spectacle, il y a pas mal de coïncidences et aussi un peu d'illusions. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là.
Alors moi je suis venu voir, tu m'as invité, c'était génial. Le public il est ressorti de là mais avec des paillettes dans les yeux, ils étaient émerveillés, aussi bien les grands que les petits. Donc bravo.
Merci.
Bravo. J'ai passé un super moment. Par contre, il y a des tours que tu as inventés.
Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que peut en parler sans tout dévoiler?
On peut en parler sans tout dévoiler. J'allais dire, vous le savez, mais pas forcément. Il y a dans les spectacles de magie, il y a des tours qu'on peut inventer, évidemment. Il y a des tours qu'on peut également échanger avec d'autres magiciens et certains tours qu'on peut même acheter. On est une communauté où voilà, il y a des gens qui s'occupent de créer des tours et de les vendre à d'autres magiciens. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que moi je fais. J'en invente et aussi j'en vends uniquement aux magiciens professionnels. Et donc j'en invente forcément. Et dans mon spectacle, c'est un mélange de tout ça, de tours que j'invente, de tours certains que j'ai achetés, que j'ai refait à ma sauce. Voilà, des tours que... Enfin, vraiment, c'est un mélange de plein de choses, quoi.
Alors, tu fais participer à chaque tour le public.
Ouais. Très interactif.
En fait, ils sont acteurs de ce que tu fais.
Carrément. En fait, j'aime bien que les gens s'amusent, que les gens participent, et qu'ils interagissent avec ce que je vais dire, ce que je vais faire. Parce que je trouve que finalement, quand on est encore plus impliqué quand on participe et on est encore plus à fond, quoi, attentif à ce qui se passe. Et puis, de toute façon, souvent, les gens veulent participer... Puis s'ils n'osent pas trop au début, après ils comprennent que finalement c'est amusant de jouer le jeu. Et très vite ils vont lever la main pour vouloir monter sur scène et tout. Donc c'est assez fun et on passe un très bon moment. Voilà.
Ouais, et puis si le public ne participe pas, ça va être compliqué de faire un spectacle.
Ouais, bah surtout quand c'est interactif comme ça. Là je compte vraiment sur les gens pour. Parce que sans eux, c'est vrai que je ne peux pas faire grand chose enfin, dans ce show-là. Donc ouais, là je compte carrément sur eux.
Alors ils participent dès l'entrée, avant même que tu n'arrives sur scène, parce que tu leur donnes des. Enfin, ton équipe donne des papiers et des crayons.
C'est ça.
Ils doivent marquer les mots.
Exactement, alors, bonne mémoire.
L'avantage quand même là-dessus, c'est qu'ils gardent ce papier. Donc en fait, tu n'as aucune idée de ce qui est marqué.
Ouais, en fait au début du show, j'ai un assistant de mon équipe qui distribue des papiers aux gens. Concrètement, ils doivent marquer sur ces papiers un mot qui leur passe par la tête. Mais garder le papier avec eux, le cacher, etc. Le show n'a même pas commencé à ce moment-là. Je pense que déjà les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire
qu'est-ce
avec ce papier
avec ça.
C'est vrai que c'est toujours intriguant et j'ai toujours trouvé moi cool avant que ça commence, de déjà avoir un rôle. Donc le spectacle a déjà commencé alors qu'il n'a pas commencé en fait. Puis au final, pendant le spectacle, les mots que les gens ont choisis auront une importance. Et puis je fais un numéro avec ça.
Alors moi j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ta jeunesse. Depuis quand tu fais de la magie? Déjà tout petit, tu t'amusais à ça?
Ouais, alors moi j'ai commencé la magie, quand j'ai découvert ça en fait, quand j'avais à peu près 8 ans, 8-9 ans. Je suis allé au musée Grévin avec ma famille. J'étais avec
en général,
mon frère.
C'est les magiciens qui donnent envie. Toi, c'est le musée Grévin.
Ouais, mais c'est un magicien qui était au musée Grévin. En fait, donc on était en famille et il y avait un magicien, Musée Grévin, qui faisait des tours aux gens. Il bosse là-bas, je pense, à l'année, j'imagine. Et donc il y a de ça, c'était il y a presque 20 ans. Presque 20 ans déjà, ouais. Parce que donc j'ai 29 ans aujourd'hui. Il faisait des tours, il avait comme un stand et moi je suis resté bloqué, j'ai bugué devant lui. Donc à l'époque, il faisait des tours qui sont maintenant des classiques, parce que maintenant je sais les faire et voilà, mais les balles en mousse, des tours avec des cartes, des élastiques. Et j'ai bugué devant son stand et vraiment je suis tombé amoureux de la magie, quoi, à ce moment-là. Et de là, mon père, donc, qui était avec moi, lui a demandé où est-ce qu'on pouvait apprendre à faire ça. Et ce magicien nous a envoyé dans un magasin de magie à Paris, un des rares magasins de magie, quoi, parce que c'est vrai qu'il n'y en a finalement que très peu. Et donc on est allé à Paris, là-bas, dans cette boutique, et c'est là-bas que le gars nous a vendu un jeu de cartes, un DVD, quoi, pour apprendre les manipulations, les bases de la magie, quoi. Et j'ai commencé comme ça. Donc c'est parti d'un mec, d'un magicien, qui m'a donné envie d'en faire. Et après, voilà. Tout est parti de là.
Alors les jeunes, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un DVD, vous demanderez aux anciens.
C'est vrai que maintenant, c'est plus les YouTube, Internet. Les DVD, c'est des vidéos, quoi. C'est des vidéos d'apprenti, c'est des vidéos, c'est un film, quoi.
C'est comme si moi, je te parle du Cinébox à l'époque.
Alors moi, quand je pense à ça, je pense au théâtre qui est un peu plus loin là-bas, qui s'appelle le Cinébox, mais sinon, non, je sais pas ce que c'est.
Le cinéma d'Audiard. Un dialogue au comptoir. de l'amitié qui passe. Comme les trains banlieusards de la gare Montparnasse.
Puis après, j'ai continué. À l'époque, je m'entraînais énormément. J'étais vraiment archi passionné. C'était ma drogue, quoi. Je faisais 4-5 heures par jour d'entraînement de
ah
manip.
Ouais.
Ah ouais, j'étais vraiment... C'est simple, hein, moi j'ai jamais eu vraiment d'autres passions et d'autres centres d'intérêt. Je faisais pas, souvent quand on est jeune, on va faire du foot, du piano, du basket. Moi c'était vraiment que la magie qui comptait et en fait ça me lassait pas, quoi. J'étais vraiment un gros geek de ça, quoi. Et donc j'ai évolué dans cet univers-là. Et c'est pour ça que bah, j'ai réussi à avoir quand même un bon niveau en termes de dextérité parce que je faisais que ça de mes journées, quoi. En cours, même dans les cours de la récré, je faisais tout le temps des manips avec des cartes au début. Et donc
tes profs, tes copains et tes parents étaient les spectateurs.
Ouais, et
les
parents,
cow-boys même.
Les cobayes et les parents et les frères, mes frères, mon frère et ma sœur étaient même saoulés parce que tellement je leur en faisais, bah forcément, quand tu leur remontes 20 par jour, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Non, mais toi. Et donc ils étaient saoulés. Mais maintenant
du coup ils t'ont rogné, ils veulent plus te voir.
Ouais, exactement, je suis tout seul. Non, maintenant voilà, chacun a fait sa vie, on a tous grandi et ils sont tout contents de venir me voir en spectacle quand ils ont l'occasion, parce que c'est voilà, j'ai grandi et puis on n'est plus des gamins maintenant. C'est cool de voir dans le Léon qui maintenant a évolué, en fait son métier et voilà, quoi.
Est-ce qu'en faisant ce métier-là, on reste pas des gamins quand même?
Oh bah, je pense que ça aide peut-être à rester un gamin très longtemps, peut-être plus longtemps que la plupart des gens, j'en sais rien.
C'est clair.
Ça faudra demander, je sais pas. Mais non, c'est sûr que c'est vraiment incroyable de vivre de sa passion. Alors, rien que ça, vivre de sa passion, c'est vraiment super, hein, de se lever le matin et de se dire waouh, je vis de ce que j'aime et que ça marche et que ça continue d'année en année et tout. Et bah, que ce soit de mieux en mieux, enfin, voilà, c'est un peu le but. Mais quand ça se passe comme ça, c'est trop cool, quoi.
Il y a un truc qui est génial, c'est que tu travailles pour être payé à aller jouer.
Ouais.
C'est extraordinaire,
t'es
quand même.
T'es payé à être applaudi.
Non, mais c'est extraordinaire. Ouais, les gens, ils sont payés pour travailler.
C'est ça.
Toi, tu travailles avant pour pouvoir être payé pour aller jouer.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais après, ce que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'eux, ils voient les lumières, ils voient le spectacle, l'heure de spectacle, quoi. Mais ouais, en amont, c'est du boulot pour créer un spectacle, pour donner un ordre d'idée pour ceux qui ne connaissent pas trop. Moi, ce spectacle-là, ça a été un an de travail, mais pas non-stop, évidemment. Il y a des phases où, pendant 2-3 mois, on cherche des idées, on a du mal à trouver des trucs qui marchent bien, puis on en trouve, puis finalement, on efface des trucs. Mais en gros, dans la globalité, moi, j'ai mis un an à obtenir, que tout soit fait. Parce que vu qu'il y a de la vidéo, bah, comme tu l'as vu, dans le spectacle, j'ai un écran géant qui me sert dans le spectacle. J'apparais dans l'écran, je rentre dans l'écran, enfin bref. Je me sers de l'écran pour plusieurs numéros et donc du coup c'est pareil, il faut après avoir les idées de. Il faut faire les vidéos, faut être, donc c'est tout un travail qui fait que. Avec les musiques aussi, je les ai faites composer et tout ce travail-là, c'est un an de travail, quoi, au final.
Donc, et encore, c'est pas beaucoup.
Bah, en fait,
ça a été vite.
Ouais, un an, ça a été vite, ça a été rapide. Ça a été rapide parce que maintenant, peut-être que j'ai aussi plus l'habitude que. C'est sûr qu'à l'époque, enfin, il y a de ça, 4-5 ans. Déjà, j'aurais jamais réussi à produire un truc comme ça, mais j'aurais pas su qui aller voir pour faire des vidéos, pour comprendre comment marchait une vidéo aussi. Mais oui, un an en vrai, je sais pas comment mettre les autres pour faire. Alors, pas forcément les magiciens, mais je sais pas comment mettre les artistes en général pour écrire un spectacle.
En général, tu mets des. Enfin, il y en a, ils écrivent très vite.
Ouais.
Et t'as des gens, des fois, ils mettent 10 ans pour créer une pièce, pour tout soit abouti.
Ouais, c'est vrai. Alors, après, là, c'est. En un an, voilà ce que ça donne. Après, l'année prochaine, ça pourrait être que mieux. Enfin, la base va rester la même, mais après, c'est pas dit que je change un numéro ou deux, que j'en sais rien, que je change.
Ça allait être ma question parce que c'est pas ton premier Avignon.
Non.
Et justement, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres?
Ouais.
Puisque tu as dû changer des choses, c'est automatique.
Ouais. Toi, tu m'as vu cette année.
Ouais.
C'était ta première. Ok. Donc, tu m'as découvert cette année. C'est simple. Donc, moi, c'est mon 6e Avignon. Quand je suis arrivé à Avignon, je connaissais même pas Avignon. C'est-à-dire que, en fait, c'est un producteur qui avait un théâtre vers Lyon, enfin à Lyon. Qui m'a dit, tiens, chaque année je fais Avignon, est-ce que ça te dit que je te produise? J'ai dit, ok, je vais découvrir, pas de problème. Et j'avais un spectacle, mais bon, qui n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas. Voilà, j'enchaînais un peu les tours les uns après les autres. C'était des tours plus classiques. Deuxième année, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un truc un peu plus pointu. Donc j'avais toujours pas l'écran, mais j'ai voulu carrément du coup en refaire un. Donc j'ai dû me dépêcher, du coup. J'en ai refait un qui était déjà beaucoup mieux que le premier. Mais voilà, c'était pas ce que je voulais produire au final. Et après, je me suis dit, vas-y, là, j'ai envie de faire un truc avec l'écran. Et donc, c'était très stressant cette année parce que intégrer un écran quand on ne sait pas du tout comment marche la vidéo, la technique et tout, c'était un challenge quand même stressant. Et donc j'ai fait mon premier spectacle avec un écran que j'ai gardé plus de deux années. Et puis voilà, mes premiers spectacles n'avaient rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Vraiment, c'était très différent. Et là, ça ressemble quand même vraiment à ce que j'avais en tête il y a quelques années. Et là, je suis content parce que j'ai réussi à faire ce que j'avais en tête, quoi, en gros. Mais alors, ça va encore évoluer. Hein, mais...
Alors, moi, je dirais que le spectacle chaque année te ressemblait par rapport à ce que tu étais, puisque, mine de rien, tu commençais à faire vraiment des grosses scènes, quoi. Donc, et à connaître ce monde.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est ça aussi. Donc, il évoluait avec toi. Donc,
Il évoluait avec moi. Et ouais, c'est ça. Mais je sais que depuis déjà le début, dans ma tête, je savais que je voulais avoir un spectacle un peu comme ça, tu sais, avec la vidéo et tout. Seulement, c'était trop précoce, quoi. Je ne savais pas comment réussir à avoir et faire, comment faire pour. Et donc.
Et rencontrer les bonnes personnes.
Et c'est vrai que maintenant, voilà, à force de, comme tu dis, avec l'expérience, les années, les machins, et ben du coup, on rencontre des gens de l'expérience et du coup, voilà. En gros, en résumé.
Poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages.
Moi qui m'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, je ferai débarbouiller ce gris environ de bord.
Il y a un pays de monde, il y a un pays de la maravilla, mais par les seigneurs et la miséria, passeria mes pour la maison.
Et depuis quand tu t'autoproduis?
Alors à Avignon, ça fait maintenant trois. Là, c'est ma troisième année.
Que tu t'autoproduis?
Ah, exactement. Avant, d'accord, je ne l'aurais jamais fait parce que, déjà, la première année, donc 6 ans en arrière, je ne connaissais pas Avignon. Donc, déjà, je ne risque pas de. Voilà. Puis, déjà, il y a 6 ans, c'est quand même. Ça coûte cher d'organiser un Avignon. Et il y a 6 ans, je n'aurais pas pris le risque. Après, j'ai compris du coup comment fonctionnait Avignon avec les années. Et j'ai compris que j'ai vu que j'arrivais à remplir. Et du coup, je me suis dit, en vrai, si quelqu'un le fait pour moi, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas arriver à prendre le relais et faire pareil, quoi, en gros. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, j'ai changé de théâtre, maintenant je suis au Paris. Et puis voilà, je continue avec en faisant maintenant comme moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je peux, comme c'est moi qui me produis, je peux me permettre de le faire de la manière que je le souhaite. Voilà. Et puis l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, je recommence. Et puis j'ai hâte et j'espère que ça va se passer aussi bien que cette année. Parce que cette année, là, j'enchaîne les complets, c'est vraiment trop chouette, quoi.
Ben, je te souhaite pour l'année prochaine. Hein.
Ouais,
merde aussi.
Et pour toute l'année, ouais. C'est ce qu'il faut me souhaiter. Que ça continue encore longtemps.
Alors, vu que tu es en autoproduction, tu n'es pas tout seul. Moi, j'aimerais que tu parles des gens qui sont dans l'ombre.
Ouais, alors.
Tu en parles, tu sais ce qu'ils font.
Alors, Avignon, c'est un peu particulier parce que déjà, en temps normal, moi, je bosse avec. J'ai un technicien, un régisseur qui me suit dans mes différents spectacles. Qui lui aussi fait la tournée d'autres artistes. Donc parfois quand il peut pas parce qu'il est sur la tournée d'autres artistes, et ben là j'en prends un autre, voilà. Mais sinon, mis à part ça, évidemment je suis entouré de personnes pour la vidéo, qui créent les vidéos, pour les musiques c'est pareil. Pour la magie, je me débrouille seul. C'est moi qui écris mes spectacles. Et pour Avignon, j'ai parce que depuis l'année dernière je bosse aussi avec un diffuseur qui s'occupe de vendre mon spectacle un peu partout en France, dans des théâtres. Dans le cadre pour des centres culturels, et c'est ça qui du coup fait que j'ai la chance de faire des belles salles qui soient de 3, 4, 5, 600 personnes, 800 personnes même parfois. Et à Avignon, donc je suis entouré de mon technicien, donc c'est le même que d'habitude, que
celui avec lequel son nom, hein.
Ouais, il s'appelle Alexandre Massiot, qui bosse avec moi toute l'année et qui bosse au Paris notamment, voilà, avec moi. Et je bosse aussi avec on est une petite équipe, hein. On est deux, il y a deux personnes qui travaillent avec moi, qui m'aident à tracter, à distribuer les tracts, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, Avignon c'est à peu près 1600 spectacles par jour. Donc c'est un peu, je dirais, comme on pourrait, c'est vraiment c'est l'usine quoi, c'est vraiment, il y en a partout quoi. Et donc il faut se démarquer, il faut faire en sorte de séduire un peu les gens qui passent pour les faire venir dans notre théâtre. Même si on a la chance de remplir, il faut quand même être là et parce qu'il n'y a pas qu'une date à remplir quoi, il y a tout le festival et donc c'est long. Et donc je bosse avec donc deux personnes en renfort pour m'aider à distribuer des fly pour essayer de les voilà, de leur donner envie de découvrir le show. Et donc ça fait voilà, et ben je crois qu'on a fait le tour hein, au final. Et j'ai mon diffuseur qui bosse aussi avec moi, qui est là, qui est là pour recevoir les pros qui viennent en repérage pour voir si le spectacle peut leur plaire, hein, pour les programmer dans leur théâtre ou dans leur dans le cadre de programmation culturelle, s'ils bossent pour les mairies de leur ville ou quoi. Enfin voilà le topo, voilà en gros ma vie quoi, à Avignon et à côté.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Carezza della notte, quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza avrai di più quando fa sera, il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro
thank you.
Chacun fait son taf. Quoi.
Chacun, ouais. Et aussi, du coup, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi, qui donne un coup de main pour installer le spectacle. Alex, qui est mon technicien, le fait avec lui. Moi, je suis aussi là en renfort pour préparer ce que j'ai à préparer. Et eux, ils sont deux pour m'aider parce que finalement, à Avignon, tout va très vite. Il faut installer, tu le sais, hein, très très vite les décors. Les...
Alors toi, là, je ne sais pas combien de temps, mais t'en as, ils ont un quart d'heure. Il y en a, ils ont une demi-heure maximum.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc, nous, on a à peu près, on a réussi à s'arranger pour avoir 25 minutes entre le moment où on arrive et le moment où il faut qu'on ouvre la salle. 25 minutes parce qu'on a l'écran, on a tout installé et tout. Au final, il faut préparer aussi tout ce qu'on a laissé un peu en vrac la veille. Il faut tout ranger pour tout repréparer. Mais ouais, 25 minutes de préparation à Avignon.
Et après, il faut tout ranger et t'as l'autre qui s'installe en même temps.
C'est ça, parce qu'en fait, pourquoi 25 minutes? Parce que quand on s'installe, et avant qu'on s'installe, il y a un autre spectacle qui est en train de jouer. Quand le spectacle se termine, eux, ils quittent les lieux, nous, on s'installe. Donc là, on a 25 minutes. Et quand le spectacle se termine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on doit vite partir. Et pendant qu'on part, il y en a un autre qui, lui, s'installe.
S'installe, exactement, ouais.
Et c'est comme ça toute la journée.
Et c'est la course.
C'est, ouais, le marathon. Tu disais quoi tout à l'heure? Tu disais que c'était le marathon.
C'est le marathon aussi.
Ouais, le marathon.
Ouais, c'est ça. C'est nos JO à nous.
C'est ça.
C'est tous les jours. À part qu'eux, ils font une course, mais nous, c'est tous les jours.
Bah, la course, c'est tout le temps, ouais.
Et puis c'est tout le temps, c'est du matin au soir, parce qu'il faut flyer, il faut tracter.
Mais bon,
faut...
on va pleurer. Ouais, on va pas pleurer. Et puis là, finalement, on a fait plus que la moitié. Il reste quoi? 6 dates? C'est quoi 6 dates? Enfin, 6 dates. 6 jours. 6 jours, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Facile.
Est-ce que tu as des dates de prévues là déjà?
Ouais, bien sûr. Bah, du coup, bah, c'est aussi le boulot de Fabrice, mon diffuseur, de programmer avec les gens qui viennent découvrir le show, de programmer des dates pour 2020. Là, on en a pour 2025 et même 2026 qui sont déjà programmées. Je sais que je vais retourner en truc vraiment cool. J'ai eu la chance d'aller au Maroc il y a 2 mois, faire 3 dates de mon spectacle. Et là, je vais y retourner donc cette fin d'année. Au Maroc, j'ai des dates sur Caen et Rouen de prévu. J'ai des dates en vrai un peu de partout. Je connais pas tout par cœur. J'en ai à Alès, j'en ai à Clermont-Ferrand là à la rentrée de septembre, octobre. Bon bref, le mieux c'est d'aller sur mon site internet et c'est là qu'on peut y trouver toutes mes dates de tournée. Léonlemagicien.com ou sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Léon, donc vous tapez Léon, Léon Magicien.
Léon Magicien sur les réseaux sociaux, ouais. Et Léon Magicien sur le site internet.
Exactement, pour connaître un peu mon actu et mes dates, et pour qu'on s'y retrouve éventuellement sur scène avec plaisir. Enfin, vous serez dans la salle, hein, mais peut-être que vous montrez sur scène. Donc,
Et si jamais une mairie ou quoi que ce soit veut te contacter pour faire venir ou que ça savoir les tailles.
Pareil, c'est sur mon site, il y a dans l'onglet contact, en fait, il y a le numéro de Fabrice. Pour ce genre de demande. Et après, c'est lui qui prend le relais et qui gère ça. Donc voilà, tout est très bien indiqué sur le site.
Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Eh bien, merci de m'avoir invité pour cette on appelle ça une interview, c'est ça?
Ouais,
pour cette interview. En plus, on est bien, parce qu'on est sous des... Comment on appelle ça?
Ouais, des parasols.
Brumisateur. Donc on est bien. Non, merci de m'avoir invité. Merci pour le pack à l'eau. Voilà. Pack à l'eau, c'est une boisson du Sud. Et puis, à une prochaine fois.
Ben, merci à toi. Merci de m'avoir invité au spectacle.
Et ben,
merci,
avec plaisir.
Merci d'avoir répondu à l'invitation.
Et ben, avec plaisir également. Plaisir partagé. Et puis, on se dit à très vite.
Ben, déjà, j'espère qu'on va se voir dans l'année. Et puis, sinon, ici l'année prochaine.
Exactement. On se verra sûrement l'année prochaine. Et puis, peut-être même dans l'année.
Super. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Ciao.
C'était Raymond Tatin.
Avec Musique et Lol sur Radio Scarpe Sensée.